Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman d'Yves Tanret, émission qui fête cette année ses 10 ans d'existence. Il n'échappera à personne que la voix que vous écoutez n'est pas celle inimitable d'Yves, mais celle de son fidèle chroniqueur, Frédéric Gournay. Yves Tanret, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, nous a quittés le 12 avril dernier. Aujourd'hui, jour de ses obsèques, nous pensons fort à sa famille, à sa femme Magali et à ses deux enfants Ulysse et Anna-Livia. Une émission spéciale lui sera consacrée le mardi 19 mai dans La vie est un roman, qui était son émission, où nous rendrons hommage à l'écrivain radical et original, l'historien d'art érudit et le formidable imitateur qu'il était. Aujourd'hui, dans La vie est un roman, nous recevons François Angelier, journaliste et producteur radio, spécialiste de tout ce qui sort de la norme, de ce qui est hors catégorie, de ce qui fait mauvais genre, et de Nicolas Chemla, écrivain, auteur entre autres de Monsieur Amérique, Murnau des Ténèbres et L'Ensorcelé, entre autres, hein, et qui viennent nous parler d'un recueil de nouvelles qui vient de paraître chez Séguier et qui s'intitule « Un jour le diable ». Bonjour François.
Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
François Angelier, vous êtes à l'origine de ce recueil de 9 nouvelles. Mmh. Vous entendiez fêter avec ce livre les 100 ans de l'apparition de « Sous le soleil de Satan » de Bernanos. Alors, ça vous paraissait important de remettre en avant Bernanos sur la scène littéraire? En quoi est-il d'actualité ou au contraire intemporel?
Alors Bernanos, c'est les deux. Il est à la fois d'actualité, puisque je dirais son engagement politique, sa volonté de liberté, d'exigence intérieure est à mon avis à la fois nécessaire aujourd'hui. Donc une espèce d'intemporalité de Bernanos, de sa génération, c'est sûrement le dernier écrivain dit catholique, qui a encore une mythologie. On ne peut pas dire que ce soit la même chose pour d'autres, comme Mauriac et ou Cesbron ou d'autres. Bernanos reste une sorte de mythe à la fois spirituel et politique. Et puis, oui, c'est ça. Il est un peu dans les deux domaines. Il est à la fois dans l'histoire, puisqu'on n'a pas oublié son engagement pour la République espagnole. On n'a pas oublié son exil au Brésil au moment de la Seconde Guerre mondiale et son refus précoce et radical de toute forme de compromission, de collaboration pétiniste et autres, après son combat au moment de la guerre froide contre le totalitarisme stalinien. Donc il y a une actualité politique, je dirais éthique, de Bernanos. Et puis bon, c'est l'homme du curé de campagne, c'est l'homme de Satan, on va en parler. C'est aussi l'homme d'une certaine éternité. Donc Bernanos a l'alpha et l'oméga, il tient les deux bouts de la chaîne.
Comment vous avez déterminé le choix des auteurs? Il faut rappeler qu'il y a Christophe Beer, Nicolas Chemla, Jennifer Kerner, Sébastien Lapac, Caroline de Mulder, Bernard Quirini, Jean de Saint-Cheron, Esther Teilhard et Fanny Wallendorf.
Alors, c'est assez simple. Ce sont des gens que je connais soit personnellement, parce que par mon activité de producteur de radio à France Culture, Mauvais Genre, je reçois des écrivains toute l'année, tous les mois, depuis maintenant 30 ans. Donc, je connaissais certaines personnes. Et puis, c'est surtout pour les avoir lus. Il me fallait des gens. Je me suis dit, tiens, 100 ans sous le soleil de Satan, 1926-2026. Aujourd'hui, rendons hommage à Bernanos. Bon, Jean Le Gall, et je le remercie, a accepté cette proposition. Donc il fallait trouver un moyen de rendre hommage à Bernanos. Alors, faire un colloque de plus, ça me semblait, c'est toujours agréable, mais bon, il y a déjà eu beaucoup de discours tenus, universitaires et autres, sur le soleil de Satan, sur Bernanos. Donc l'idée, c'est de se poser cette question. Aujourd'hui, si on prend le moment le plus célèbre de ce roman de 1926, qui est le chapitre où le curé qui part dans la nuit pour remplacer un collègue confesseur qui est un peu dépassé par l'afflux des pénitents, qui part dans la nature et qui brusquement tombe sur un maquignon sympa qui se révèle être le diable, et ça donne lieu à une scène absolument légendaire de la littérature contemporaine. Donc si on devait aujourd'hui traiter ce thème de « quelqu'un rencontre le diable », parce qu'ouvrons un petit peu le cadre, élargissons le cadre et ouvrons le paysage. Si on dit à quelqu'un, voilà, vous êtes écrivain, on vous dit, vous avez 30 000 signes pour nous raconter une rencontre entre une créature, ça peut être un animal, ça peut, peu importe, et le diable. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre... Et donc après, j'avais une sorte de matrice comme ça, de base. Je me suis dit, bon, à qui demander cela? Alors, Nicolas Chemla s'est imposé tout de suite, puisqu'il y a chez lui une hantise du malin et une plume qui m'allait, qui me semblait tout à fait nécessaire. Et puis après, j'ai cherché les gens. Je voulais à la fois des gens qui étaient à la fois, qui avaient une plume charnelle, coriace, violente, colorée, j'allais dire flamande. Et bizarrement, il y a trois nouvelles qui se passent en Belgique. Et en même temps, des gens qui soient accessibles, qui aient une espèce de lucarne ouverte sur la nuit, d'où ils peuvent recevoir le diable. Donc j'ai cherché et voilà, j'ai fait ce casting.
Alors dans le roman de Bernanos, le diable a quitté ses apparences terrifiantes, hein, lucifériennes, pour un aspect presque quelconque, celui ordinaire d'un marchand de bétail, vous l'avez dit. C'est aussi le cas dans ce recueil, à l'exception peut-être de Christophe Beer et peut-être Nicolas Chemla. Le mal est-il si banal que ça ?
C'est-à-dire que le diable, on a compris aujourd'hui, on a beaucoup parlé, ça c'est la question d'Anna Arendt à propos du procès Eichmann, la banalité du mal. Le mal se présente souvent sous une forme anodine où il permet une sorte de, je dirais, pas de transfiguration, ou transfiguration à l'envers pour des gens anodins. C'est ce que le nazisme a montré avec tous ces gardiens de camp, tous ces auxiliaires de la mort, qui étaient au départ des gens, ma foi, qui des passants, des gens dans la rue, qui n'étaient pas des mages lucifériens et tout. Donc on a cette idée que le mal peut venir de partout et sous toutes les formes, ce qui fait que le malin, comme ça, qui se dresse sur un peu comme Fantomas, qui se dresse sur l'horizon avec ses cornes, cette espèce d'environnement de feu et de soufre, et qui, bon, ça c'est terminé. Et Bernanos l'avait compris, puisque la deuxième incarnation qui nous a donné du mal en 1946, c'est Monsieur Wynne, qui est un professeur d'anglais à la retraite, tuberculeux, pédéraste, et qui agonise comme hébergé par un couple de hobereaux de province. Vraiment un homme, tout ce qu'il y a de moins fantasmagorique. Et alors, Bernanos s'en fait une espèce de pompe à vide, de machine à créer le néant, absolument génial. Et je crois qu'il y a à la fois dans ce recueil des gens qui veulent quand même mettre en scène une espèce de démon un peu théâtralisé et en même temps le maintenir dans les limites de la réalité, dans une espèce de quotidien.
Le diable ne s'en prend qu'aux âmes d'élite, car la masse court d'elle-même à sa perte, écrit Bernanos. Où est passé la sainteté et l'héroïsme spirituel ? Où sont désormais les combattants du camp du ciel ? Comme dirait Saint-Augustin.
Si vous le savez, je vous serais content que vous me le disiez. Tout dépend. Là. Il y a des âmes héroïques, mais elles ne font peut-être pas partie, je dirais, du camp des saints. C'est pour ça. Donc, je ne sais pas. Là, je n'ai pas de réponse sur l'actualité de la sainteté. On peut citer des saints laïcs, effectivement. Mais là j'ai pas de réponse. Je ne peux pas vous désigner aujourd'hui quelqu'un qui, selon moi, serait un candidat à la sainteté.
Parce qu'on retrouve dans l'œuvre de Bernanos, les deux, on retrouve la figure du malin, aussi banal soit-il, aussi perfide soit-il, et aussi la figure du saint, dans le combat tragique qu'il doit mener contre le diable. Dans le recueil, la sainteté est un peu passée à la trappe.
Oui, la sainteté est passée à la trappe. Alors effectivement, c'est là où on peut dire que les neuf auteurs s'éloignent un peu du modèle bernanosien, c'est qu'on n'a pas affaire à cette espèce de tournoi, d'affrontement frontal entre une âme sacrificielle, une âme tournée vers le bien jusqu'à la mort, on peut le dire, et puis le malin, le démon. On a plutôt affaire à des victimes qui se font piéger par ruse, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on est plus dans une espèce de constat négatif, où les forces du mal auraient, ma foi, raflé la mise.
Alors l'enfer, que ce soit pour Esther Teilhard ou même Nicolas Chemla, ça peut être le paradis sur Terre.
Ah bah oui, mais ça c'est la grande ruse du malin, c'est-à-dire de sous les aspects les plus sémillants, les plus chatoyants, les plus agréables, arriver à mettre en scène une déliquescence, une espèce de déception, et grosso modo, ce vers quoi on tendait, qui était présenté comme un horizon de bonheur, se révèle en définitive un horizon infernal. Oui, ça c'est le diable dans toute son... qu'on peut quand même obligé d'appeler son génie.
Nicolas Chemla, pour votre nouvelle, très réussie, vous êtes inspiré de faits réels, comme on dit.
Oui, tout à fait. je raconte de manière à peine masquée l'affaire P. Diddy, qui est un peu un contemporain d'Epstein, et c'est un peu le même genre d'histoire, sauf que lui c'est un producteur de rap qui a régné sur les années 90 et 2000 à un niveau de célébrité et de fortune qu'on a un peu du mal à envisager aujourd'hui. Et qui a défrayé la chronique au cours des, on va dire, 5 ou 6 dernières années par un procès qui a été un des plus retentissants aux États-Unis, en tout cas. Et donc je raconte sa rencontre avec Cassie, qui était une petite chanteuse de 17 ans à l'époque, qui a dominé les charts avec une seule chanson, sur la fellation. Et donc ce que j'explique, c'est qu'elle ne nomme jamais, elle ne décrit jamais l'acte dans cette chanson.
C'est un peu la Lio américaine.
Oui, ou la France Gall aussi.
France Gall, oui.
Mais non, enfin, c'est hélas beaucoup plus triste que ça, parce qu'elle a quand même, elle a vécu un enfer, et il m'aurait fallu 100 fois plus de pages pour raconter en détail tout ce que ce P. Diddy lui a fait subir. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais oui, ça m'a paru... Enfin, quand François m'a demandé d'écrire une rencontre avec le diable, alors déjà, j'étais un peu embarrassé, parce que, de fait, j'en ai raconté dans à peu près tous mes ouvrages, des rencontres avec le diable. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux bien inventer? Et en fait, je trouvais que c'était... Alors, je suis pas totalement d'accord avec ce que François vient de dire sur l'opposition entre banalité et spectaculaire. C'est-à-dire que pour moi, P. Diddy, donc c'est effectivement une figure diabolique démesurée, donc la démesure étant un des aspects du diable, enfin en tout cas de son principe. Mais c'est aussi incroyablement banal, c'est-à-dire qu'à l'époque, il était partout. Et Cassie, enfin des Cassie, on a eu plein. Et donc pour moi, il y avait quelque chose d'à la fois complètement omniprésent qui infusait l'époque et qui en même temps en était l'émanation directe, et de fait quelque chose d'assez spectaculaire, parce que peu d'affaires ont atteint cette ampleur là, quoi. Voilà.
C'est toujours sur Alire FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de François Angelier et de Nicolas Chemla, qui nous parle d'un recueil de nouvelles qui vient de paraître et qui s'appelle Un jour le diable. Est-ce que vous voulez nous lire un extrait de votre nouvelle?
Oui, puisque vous me l'aviez demandé, alors j'ai préparé. Alors c'est compliqué parce que c'est une nouvelle, donc c'est très très court.
Oui, alors ne dévoilez pas tout, mais...
C'est difficile mon P. Diddy s'appelle Ange Noir, hein, je l'ai renommé Ange Noir, et la petite chanteuse s'appelle Nevae. Et donc après une scène d'ouverture où elle le rencontre, elle assiste à son concert, et elle ne le connaît pas encore, ils finissent par se rencontrer. Et puis un petit flashback... Ah oui, c'est ça, en fait, je voudrais raconter. Bon, je vous raconterai ça après. Je vais vous raconter maintenant. En fait, ce qui est fascinant dans la scène de la rencontre avec le diable dans Bernanos, sous le soleil de Satan, donc déjà, il y a une manière très subreptice de basculer dans quelque chose de fantastique qu'on ne voit pas vraiment venir. Et donc, c'est là vraiment un des génies de la scène. Mais il y a aussi un caractère très circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il finit par tourner en rond. Et qu'il est pris comme ça dans une espèce de boucle, et d'un seul coup on ne sait plus si c'est la nuit, la mort, le sommeil, le rêve. Et donc moi je me suis un peu amusé avec ça dans la construction de ma nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a un côté comme ça où tous les paragraphes se répondent et s'inversent. Alors bref, je lis. Lui, quand il avait vu Nevae débarquer à la fête après le show, il avait ressenti ce qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. Une allumette qu'on craque contre son cœur, une diode qui crame dans son cerveau et une chaleur brûlante qui irradie depuis son diaphragme. La voilà enfin, l'innocente Aniel qui avait mis l'Europe à ses pieds avec sa chanson sur la fellation. Le coup de génie, c'est qu'elle n'y prononçait jamais le mot, ne décrivait jamais l'acte, mais tout le monde savait bien de quoi il retournait. Mes copines disent que je fais ça bien, les gars veulent savoir si c'est vrai, mais ils savent que c'est à toi que je veux le faire, je saurais vraiment m'y prendre si seulement tu m'en donnes l'occasion, et je vois bien que tu en as envie. Le morceau avait enflammé les premières plateformes en ligne de l'internet balbutiant de l'autre côté de l'Atlantique. Ange Noir l'avait entendu la première fois au fond d'une nuit glaciale, une nuit d'insurmontable ennui, dans un club souterrain à Berlin, affalé comme un dieu éteint sur l'immense canapé de cuir mou de l'espace VIP, de jolies filles aux jambes interminables et aux lèvres rouges tout autour de lui. Il s'emmerdait à mourir. Sa valeur individuelle nette, 350 millions de dollars. Tout ce qu'il touchait, il le transformait en or. La mode, les boissons alcoolisées, les programmes télé. Mais c'était surtout dans le domaine musical qu'il était le maître incontesté. On l'appelait le faiseur de rois. « Je fais des miracles comme si je marchais sur l'eau », rappelait-il dans un de ses tubes. Il y a quelques années à peine, nul ne pouvait échapper à son emprise. On pouvait passer une nuit entière à entendre des morceaux des stars de Malin Musique produites par ses mains d'alchimiste. Du salon d'un ami à la radio dans le taxi, de l'épicerie en chemin au dance floor du club, puis de nouveau à la radio en rentrant chez soi, Malin Musique, du crépuscule à l'aurore et vice-versa. Il se savait invincible, malgré toutes les affaires dans lesquelles il avait mouillé. Il n'avait jamais été condamné, n'avait jamais passé la moindre minute en prison. Le gangsta rap était le genre le plus populaire à l'époque et lui le plus populaire des gangstas. Mais il était de ceux qui œuvrent dans l'ombre. Et c'est dans l'ombre qu'il avait démarré, derrière les consoles des studios. À 18 ans, il était devenu le plus jeune directeur du label. Et puis son jeune poulain, Gagro, qui s'était imposé en moins d'un an comme le king du rap East Coast, était mort dans des circonstances non élucidées. Le mois suivant, Ange Noir faisait la une du magazine Rolling Stone, après avoir battu tous les records de vente avec une chanson en hommage à Gagro, dans laquelle il pillait ouvertement un vieux tube de rocker blanc des 70s. Le monde entier connaissait son nom, le monde entier le vénérait. Un à un, tous ses adversaires, tous ceux qui menaçaient son règne, avaient été éliminés, littéralement éliminés. Ils étaient morts ou dans le coma. La rumeur disait qu'il était responsable, mais la rumeur disait beaucoup de choses. Elle disait aussi qu'il était un vampire, se nourrissant du sang de ses victimes. Symboliquement, c'était vrai. Plus il côtoyait la mort, plus son règne s'étendait. Il disait « Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi pour voir tellement de morts dans ma courte vie. » Mais rien. Personne n'était venu l'emmerder. Un mot de travers et vous pouviez dire adieu à votre carrière. Dans la musique, le ciné, la mode, le marketing, mais aussi la justice, les médias ou la politique. Vous étiez blacklisté partout où ça compte, rayé du livre de la vie, comme si vous n'aviez jamais existé. Plus rien ni personne ne pouvait l'atteindre. Sauf, au fond de cette interminable nuit de l'âme, au cœur de l'hiver de Berlin, ce morceau d'une lascivité folle qui enflamme la foule sur le dance floor, comme l'ergot de seigle des sabbats médiévaux dès que le DJ en balance les premières mesures. Les yeux s'allument, les lèvres s'entrouvent, les croupes se cambrent. Cinq petites notes en boucle, une mélodie qui ondule et avance en rampant, sans accroc, tout en douceur, comme le serpent du charmeur des contes, qui t'envoûte et t'excite et vient se lever tout contre ton âme, s'immisce sous ta peau et de ton crâne glisse jusqu'à ton cœur, qui l'enserre et mord à plein croc et te vrille à jamais le cerveau. Tu dis qu'elle s'appelle comment, cette chanteuse ? Nevae ? C'est une putain de bombe, ce truc. Voilà ce qui lui manque pour ranimer son âme et asservir le monde.
Nicolas Chemla qui vient nous lire un extrait de sa nouvelle parue dans Un jour le diable. Chez Séguier, on va marquer une première cause musicale avec un morceau de Nick Cave.
Crept. from the lynch in Rome. Who's that yonder laughing at me like I was the brunt of some hilarity? Who's that yonder laughing at me? Well, up jump the devil, one, two, three.
C'était Nick Cave. Pourquoi ce morceau, Nicolas Chemla ?
Up Jumped the Devil. Le diable surgit. Pourquoi ce morceau ? Bah, parce que vous m'avez demandé de choisir un morceau.
Oui, mais celui-là en particulier.
Non, mais ça m'a paru totalement pertinent par rapport au sujet, par rapport à l'époque, comme on disait pendant la pause. Et puis parce que c'est une petite nouvelle, ce texte, quand on écoute un peu, qu'on fait attention aux paroles. Et puis il y a cette idée qui revient à chaque fin de couplet, que le diable surgit pour récupérer son dû. Donc on est en plein dans ces histoires de pactes faustiens où il y a un prix à payer. Et ce qui m'a paru moins intéressant dans mon histoire de Ange Noir, et donc cette rencontre entre Cassie, qui peut à certains égards être considérée comme une petite mouchette, elle vient de nulle part, elle est une petite misérable fille de femme de ménage. Mais ce qui m'a paru intéressant, en fait, c'est que il y a quelque chose de trouble, en fait, dans cette histoire. Et je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs ou d'autrices qui se contenteraient de raconter les choses de manière très manichéenne, avec un vilain prédateur et une pauvre petite Aniel. Or, il me semble que le lieu de la littérature est plus de comprendre, de voir ce qui se joue là. Il ne s'agit absolument pas ni de dédouaner Didi, dont je répète que les crimes sont vraiment terribles et odieux. Hein. On ne parle pas juste d'une main au cul, et puis ça a duré des années. Ni de suggérer que Cassie a cherché ce qu'elle a vécu, mais de voir une espèce de dark narratif très, très universel, j'ai envie de dire, mais qui, en tout cas, en Occident, renvoie à Faust. Et de se dire que, en fait, Didi, qui a vraiment connu un sommet quasi surhumain, enfin, c'est-à-dire, à nouveau, on a du mal à envisager l'étendue de son pouvoir, de sa fortune, de sa célébrité. Et en fait, Cassie a été l'instrument de sa chute. Et donc c'est ça que je trouve intéressant, et d'où l'écho avec Up Jump the Devil et cette idée qu'à un moment Didi, il a bien fallu qu'il paye le prix du pacte qu'il a peut-être signé avec les ombres.
François Angelier, le confort, la torpeur, l'ennui, le divertissement, la répétition, la duplication ne sont-ils pas les meilleurs alliés du diable aujourd'hui, comme le suggèrent Fanny Wallendorf, Esther Teilhard ou Caroline de Mulder?
Disons que je suis pas sûr, en définitive. Je crois que le diable, au contraire, joue de la tromperie et de l'illusion. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir aux confins de toutes les routines et de tous les amollissements et de toutes les somnolences? Est-ce que c'est le diable? Le diable peut effectivement apparaître là, mais je pense pas que ce soit son terrain favori. Je pense que je serais plutôt du côté de notre ami Chemla, c'est-à-dire une sorte de duplicité, de duperie qui fait qu'on est persuadé d'avoir emporté le morceau, d'être le veau d'or, Mammon, le prince de ce monde. Et c'est ça d'ailleurs qui est très étonnant dans la nouvelle de notre ami Chemla, c'est qu'effectivement, on a un personnage qui est le prince de ce monde. C'est ce que vous dites.
Oui, oui.
Depuis, effectivement, on répétait. On n'imagine pas le pouvoir qu'avait cet homme, à la fois social, financier, fantasmatique, même dans l'esprit des gens. Bon. Donc, c'était le prince de ce monde. Et brusquement, là, quelque chose dérape. Alors, je crois qu'effectivement, il faut cette démesure pour qu'il y ait après dérapage et que là, le diable se dérobe. Sinon, il peut vous attirer dans une sorte de sable mouvant. Alors là, ce que vous dites est vrai, mais ce serait pour le deuxième diable de Bernanos, c'est-à-dire Monsieur Wynne, qui est un personnage qui se le regarde, qui se dissout. Et effectivement, tous les mots que vous avez cités vont vers une forme de capitulation, de dissolution et d'enlisement, c'est-à-dire de sable mouvant manteau. Alors, et au fond de tout ça, il y a peut-être un ricanement diabolique. Ça, c'est pas impossible, mais ce serait plus Monsieur Wynne que le maquignon du soulier de Satan, du soleil de Satan, pas du soulier de Satan, mon Dieu.
Il y a des souliers dans le... Une excellente nouvelle sur l'amant des chaussures.
Oui. Assez terrifiante.
Donc, il y a des souliers de Satan, effectivement.
La plus grande ruse du diable consiste à faire croire qu'il n'existe plus.
Ça, ah bah oui, connu, cette phrase. C'est la phrase de Baudelaire, mais ouais. Ça c'est vrai que c'est tout à fait, c'est la capacité qu'il a de se maquiller, qui est de se contredire même. C'est ça. Ben, là par contre on revient avec Sous le soleil de Satan. Je veux dire, quand on voit cette espèce de maquignon qui, de nuit, vient là pour aider un pauvre curé complètement paumé, avec une espèce de santé, de jovialité et tout, là on se dit, ah bah effectivement, il y a toujours quelqu'un, même au cœur de la nuit, et puis bon, le diable n'existe plus, bah si, c'est lui. Effectivement, ça, c'est le piège.
Autre phrase célèbre de Baudelaire, hein, « Nul n'est plus catholique que le diable ».
Ben oui, parce que d'une part, c'est un ange, comme disait Louis Massignon, c'est un ange déçu, un ange déçu, certes, un ange déchu également, mais c'est un ange. Donc il a quand même en lui, à la fois, c'est une créature divine et c'est une créature de la proximité divine. Je veux dire, il a encore en lui cette espèce de lumière. Alors ça devient un rayonnement négatif, mais c'est, personne n'est plus catholique que le diable, mais il transforme la charité en curiosité et il transforme le rayonnement, la gloire en domination. Donc c'est une sorte de perversion et de dénaturation des pouvoirs divins. Mais c'est vrai qu'il a fait du catholicisme un mode. Il y a qu'à lire pour ça l'imposture. Autre roman d'ailleurs de Bernanos qui suit Sous le soleil de Satan et qui met en scène un historien de l'Église, prêtre, qui découvre un jour qu'il n'a jamais cru en Dieu et que tout ce qu'il croyait être comme l'expression intellectuelle de sa foi la plus profonde n'était en définitive qu'une curiosité. Et ça, le diable est fondamentalement, d'abord et avant tout, quelqu'un de curieux. Et ça, c'est justement là, peut-être le mot qui le définit le mieux.
Depuis Vatican II, il est interdit aux prêtres d'effrayer les fidèles avec la figure du diable, et même avec la sainteté. Et étrangement, c'est à partir de là que les églises se sont vidées.
Ben oui, parce qu'il est interdit de parler du diable, mais ce n'est pas pour ça qu'on interdit le diable. Ça fait partie des risques énormes de vouloir sortir de cette représentation du malin. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous trouveriez difficilement un prêtre pour faire un sermon sur le diable. Ça, j'avoue que ça devient une rareté. Ou alors, peut-être, dans certaines terres qui sont encore... la Sicile ou l'Amérique du Sud, vous avez encore... Le diable ne peut être présent et ne peut être invoqué qu'à partir du moment où son contraire est également manifeste, c'est-à-dire la sainteté, une espèce de rapport à la foi qui est un rapport excessif, violent, dramatique, la flagellation, marcher à genoux, pèlerinage à genoux. Enfin, je veux dire, quand on est confronté à ces formes baroques de piété, à ces formes d'enjeux maximum, là il peut y avoir le diable, puisqu'il y a, une espèce de... par nécessité. Mais je crois que ça a été la grande illusion. C'est pas parce qu'on arrête de parler de quelque chose que cette chose disparaît, et c'est pas en la renommant qu'elle s'abolit d'elle-même. Il faut toujours, et on voit d'ailleurs le retour de... Il y a eu, à chaque fois qu'il y a une... soit socialement avec, je sais pas moi, l'affaire Epstein, par exemple. C'est quand même extraordinaire. L'apparition récemment de la médiatisation maximum de du personnage, de ses réseaux, de ses pratiques, de ses lieux, a ramené l'image du malin comme ça. Alors, je veux dire, à la limite, l'Église n'en parle plus, mais c'est l'actu qui se charge de vous en fournir et de belles dimensions. Je veux dire, parce que Epstein, c'est carrément le Gilles Doré du 21e siècle. Moi, justement, là, récemment, j'ai lu des textes de là-bas au festival Le Marathon des mots à Toulouse, et j'ai commencé en disant ça. Je vous invite à découvrir l'univers de celui qui était le Gilles Doré du 15e siècle. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire une sorte de puissance sociale, puissance matérielle, puissance culturelle, qui est mis au service d'une sorte de lubie, comme ça. Et voilà, donc à la limite, on n'a pas le droit de parler du diable, mais il est toujours là pour faire parler de lui.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de François Angelier et de Nicolas Chemla, qui nous parle du recueil de nouvelles qui vient de paraître chez Séguier, qui s'intitule Un jour le diable. Alors, les autres noms du diable sont l'ennemi, l'adversaire, c'est aussi le diviseur, le négateur, l'esprit qui sans cesse nie. Sa plus grande aspiration, c'est le néant. Vivons-nous dans une ère du vide, Nicolas ? Vous avez écrit sur le luxe, je crois. Comment s'appelait cet essai ?
Luxifère. Pourquoi le luxe nous possède ? Moi, je ne crois pas trop à l'ère du vide, en fait. Non, je crois plus à l'ère du frisson, de l'hubris, de la division, effectivement, donc de l'éclatement absolu, enfin, ce qu'on peut appeler les particules élémentaires, n'est-ce pas ? Enfin, cette atomisation qui est vraiment le projet luciférien et une des seules définitions officielle du diable et de l'enfer qu'on trouve dans des textes de l'Église récemment. C'est vraiment cette idée de la séparation totale de chacun d'avec Dieu, d'avec soi-même et d'avec les autres. Et je crois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une différence fondamentale avec le 1926, donc la parution de Sous le soleil de Satan. Bon, déjà, il faut savoir que Bernanos a connu la Grande Guerre, donc il est quand même assez profondément traumatisé par ce surgissement des ténèbres les plus infernales au cœur même d'un Occident qu'on aurait pu croire peut-être un peu sorti de là. Mais il me semble que 100 ans après, moi j'ai l'impression qu'il n'y a même pas débat sur la victoire totale et définitive et absolue du diable, quoi. C'est-à-dire que on assiste là véritablement et de manière très accélérée en plus depuis quelques semaines avec les développements sidérants de l'IA, mais on arrive littéralement à l'aboutissement de ce que j'appelle dans Lucifer le projet luciférien qui est... Donc à nouveau, je reprends un peu ce que disait François tout à l'heure, mais cette idée de faire croire à l'homme qu'il va vers une forme d'élévation, de liberté, d'accomplissement, en s'appropriant en fait des pouvoirs divins, hein, de recréation de la vie, que ce soit par l'art, la technologie, l'enregistrement ou la science, alors qu'en fait l'aboutissement de tout cela n'est que l'éclatement total et absolu de tout ce qui fonde notre humanité, et d'une forme d'enfermement dans un monde de simulacre, en fait, où en fait on est constamment séparé à la fois de nous-mêmes, des autres et du monde, et de la merveille du monde et de la magie du monde par un monde d'écran, donc d'écran au sens littéral, hein, puisqu'on est tous complètement agglutinés sur notre petite tablette qu'on tient entre les mains, mais aussi d'écran au sens de simulacre, de faux semblants, de faux dieux, d'imposture, pour reprendre le titre du roman de Bernanos. Et donc voilà, moi quand je parle de victoire totale et définitive de Satan, qui d'ailleurs, à mon sens, je ne suis pas du tout un spécialiste de Bernanos, mais j'ai quand même un peu l'impression que c'est la fin de Sous le soleil de Satan laisse penser qu'il a peut-être totalement gagné. Mais là, il me semble que 100 ans après, quand j'ai dit que sa victoire est totale et définitive, je ne parle pas de la misère, de la violence, de la guerre. Oui, certes. Mais non, la victoire, elle est totale et définitive parce qu'on est, on est tous à croire que l'humanité s'est émancipée alors qu'elle ne fait que sombrer toujours plus dans l'abîme. Et après, il y a un autre. Donc, on a parlé d'Epstein. Alors, Ange Noir, c'est ma nouvelle. Donc, c'est Petit Didi, mais c'est un peu Epstein. Ce qui est assez sidérant dans cette victoire du diable, ou en tout cas son omniprésence, alors qu'il a été plus ou moins effacé de l'Église, c'est que on sait qu'il y a des hommes qui. Et des femmes, enfin surtout des hommes, qui travaillent à son avènement. C'est-à-dire que Steve Bannon, dont on parle plus trop, mais qui a quand même été l'architecte de la première victoire de Trump, se revendiquait d'une forme de satanisme et de destruction comme ça totale de la civilisation. Et Epstein, alors ce qui est intéressant, c'est que, alors je sais pas si c'est avec Bannon cette interview, mais enfin il y a une interview dans laquelle on lui demande s'il est le diable, et il répond qu'il en a très peur, qu'il a très peur du diable. Et alors on est très curieux, on est très excité, on aimerait bien savoir quel est ce diable dont Epstein a peur. Enfin j'adore cette phrase, enfin j'essaie d'imaginer les nuits d'Epstein. Voilà.
C'est un bon titre, ça.
Ouais.
François Angelier, vous en pensez quoi de ce que vient de dire Nicolas Chemelin?
Bon,
pensez
il a dit que le beaucoup mal, de choses.
Est-ce que vous pensez que le mal l'a emporté, que le diable...
Ah oui, moi je suis sur ce plan-là, je suis très pessimiste. Je pense qu'il n'y a pas de solution humaine aux problèmes humains. Et qu'à partir du moment où on bâtit comme ça des tours de Babel, des espèces de royautés qui sont censées être un nouveau paradis, régulièrement on voit arriver des projets urbanistiques, la ville qui résout tous les problèmes, alors il n'y a plus rien à faire. C'est sûr que là, ça ressemble à... Quelqu'un disait que le paradis... Quand il imagine le paradis réalisé sur Terre, on a une assez bonne idée de l'enfer. Mmh. Je pense que c'est exactement ça. À partir du moment où on est persuadé qu'on peut avoir la félicité, l'harmonie et le... Et comment dirais-je, le paradis clé en main, c'est foutu. Il y a forcément quelque chose de truqué où le diable est aux manettes. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Il faut toujours garder une espèce de porte battante ou une espèce de fenêtre qui claque dans un coin pour être sûr qu'on n'a pas... C'est le grand problème d'ailleurs du curé dans le sous-sol de Satan. Est-ce que même ma joie n'est pas une marque du démon? Est-ce que même ce que je ressens n'est pas en définitive... il n'est pas là avec moi, même quand j'expérimente la joie intérieure. C'est pareil, je veux dire, il faut toujours qu'il y ait une espèce de déficit quelque part pour être sûr qu'on ne s'est pas piégé.
Et pourtant, si on s'en tient au discours théologique, le mal n'a pas de substance, contrairement à ce que pense le manichéisme. Il n'a pas de possibilité d'existence. Il provient toujours d'un manque d'amour, notamment.
Ah oui, bah alors là, c'est l'affrontement entre effectivement des gens qui pensent que le mal est une puissance. Mais ça, je veux dire, cette idée que le mal est une puissance substantielle, autonome et opérante de par elle-même, c'est-à-dire qu'il y a une positivité du mal au sens qu'il y a une espèce de, c'est un acteur en soi, ça, vous le rencontrez même chez Georges Bernanos, Bernanos le pensait, je reparlais aussi de l'islamologue mystique Louis Massignon, c'est pareil. Il y a une expérience du mal qui n'est pas uniquement une sorte de machine à un déficit absolu, quoi. Il y a quelque chose de... On a beau ne pas être gnostique ni ne pas être manichéen, il y a quand même un moment où on est obligé de reconnaître une sorte d'être là du mal, quoi.
On va marquer une seconde pause musicale avec un morceau de Giuseppe Tartini, La Trille du Diable. Thank you. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de François Angelier et de Nicolas Chemla, qui viennent nous parler du recueil de nouvelles qui vient de paraître chez Séguier, qui s'intitule Un jour le diable. François Angelier, pourquoi ce morceau de Tartini ?
Oh, bah parce que c'est un classique démoniaque de l'histoire de la musique. Le virtuose et compositeur italien Giuseppe Tartini a rêvé un jour que le diable se mettait à son service. Et Tartini, en rêve, il dit bah, c'est. Jouez-moi quelque chose, et là, le diable se met à improviser une mélodie sublime que Tartini, après, reproduit dans ce morceau. Et non, c'est très intéressant de voir un peu les rapports entre au sein de la musique baroque, romantique ou contemporaine avec le diable. Quoi. Les romantiques, alors non, entre évidemment... La damnation de Faust de Berlioz, et puis surtout Liszt. C'est intéressant parce que c'était des personnages qui s'acheminaient vers une sorte de démonisation de leur propre personne. C'était des stars, ces gens qui gagnaient beaucoup d'argent, qui avaient un pouvoir social énorme, et puis qui avaient un pouvoir, je veux dire, un peu comme le diable a sur le monde, ils avaient un pouvoir sur leur instrument qui était le prince du clavier, enfin je veux dire... Liste, c'était ça. Et donc, il était tenté. Il s'est orienté vers des thèmes qui étaient des thèmes démoniaques. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette espèce de pente démoniaque qu'il y a chez les très grands virtuoses. Je veux dire, c'est ceux qui repoussent au maximum la capacité d'intervention sur l'instrument, de création et de maîtrise absolue. Je parle Horowitz, par exemple. Il vient tout jeune, commence à. Et ça c'est très... Et Tartini va dans ce sens. C'est vrai que je ne sais pas aujourd'hui s'il y a des compositeurs qui travaillent sur le diable, mais indépendant. Alors, on en a une preuve là avec Nick Cave. Mais ce que pensent du sujet les virtuoses classiques d'aujourd'hui.
Il y a un grand chanteur actuellement américain qui s'appelle Kanye West et qui parle du rapport du combat spirituel entre Dieu et le diable. Nicolas Chemla, vous voulez en parler ?
Oui, non, alors moi je suis beaucoup plus pop, hein, mais on parlait de l'omniprésence du diable. Bon, depuis Robert Johnson, le bluesman qui fait un pacte au carrefour pour devenir virtuose, jusqu'à tout récemment, enfin Lady Gaga a beaucoup surfé sur un imaginaire sataniste infernal, enfin voilà, de créatures, enfin et c'est vraiment partout dans la pop culture. Donc vous parliez de Kanye West, donc effectivement un personnage complètement hanté par ses propres démons. Enfin, il est très qui lui-même est une figure du mal en fait, hein, puisqu'il se prend pour Dieu, ce qui est quand même à nouveau un des piliers du projet luciférien, c'est de convaincre l'homme qui peut prendre la place de Dieu. Mais oui, enfin c'est Quelque chose qui m'a fasciné là récemment, c'est la sortie du nouvel album de Madonna, qui est donc il y a beaucoup, pareil, hein, beaucoup surfé sur une image biblique.
Sur son fond de commerce.
Un peu edgy, hein, Madonna, voilà, ouais, elle est, enfin c'est son nom, hein, c'est son nom. Mais ce qui est assez génial, alors je sais que notre ami Angelier est comme moi un fan de Giallo et de Mario Bava. Et quand on voit le visuel qu'elle a mis en avant, enfin l'image hein, qu'elle a mis en avant pour annoncer son... Où elle est comme ça, voilée de rose, dans une position un peu lascive. Et alors, moi, je suis farouchement opposé à toute forme de sexisme et d'agisme. J'ai toujours été choqué par la manière dont on peut encenser Mick Jagger, qui, jusqu'à 80 ans, secoue ses hanches, mais qu'on trouverait ça indécent de la part d'une mamie comme Madonna. Mais dans le cas de Madonna, il faut imaginer les images qu'on a vues tourner sur les réseaux sociaux il y a encore 2 ou 3 ans, où il y a eu des images où on ne sait pas pourquoi elle a un peu pété les plombs, et elle s'est montrée comme ça, surgissant du noir, avec son visage complètement défiguré par la chirurgie esthétique. On avait vraiment l'impression de voir une espèce de gollum comme ça surgir sur Instagram. Alors là, apparemment, elle a réussi à se refaire une beauté, mais elle a, dans l'enregistrement même, il y a quelque chose enfin, dans sa voix, là, je ne sais pas si vous avez écouté le morceau, elle murmure, elle susurre, elle dit qu'elle aime s'inventer de multiples personnalités, elle dit qu'elle aime exister dans le noir, se fondre dans la foule. Il y a quelque chose d'assez à la fois jouissif et terrifiant dans cette figure, enfin, et que pour le coup je trouve assez djihadiesque dans cette image d'une Madonna éternelle. Alors en plus Coachella, voilà, c'est vraiment le veau d'or, on est au milieu du désert, on a des dizaines de milliers de personnes qui adorent des idoles gigantesques. Je ne sais pas si vous avez vu les images du concert d'Anima, qui pareil joue complètement sur une espèce de mythologie plus ou moins infernale. Enfin voilà, donc ouais, je vois le diable partout.
Oui, les plus grands péchés, ce sont l'égoïsme, le narcissisme, l'orgueil. L'orgueil suffit à définir par le diable lui-même. L'esprit d'offense, c'est aussi ce qui caractérise le diable. Est-ce qu'on, alors pour le coup, vraiment dans une période diabolique, où chacun se sent offensé?
Ah, dans ce sens-là. Oui, alors moi je serais plus sur la curiosité. Je crois que vraiment cette idée que développait François tout à l'heure sur...
François, l'esprit d'offense, est-ce que c'est pas l'esprit de notre époque?
L'esprit d'offense, oui, mais je pense pas que ça... Oui, il y a un plaisir dans la haine. Il y a une espèce de jouissance de la haine que les réseaux sociaux ont surdémultipliée. Le côté hater, du genre mitonner et fricoter une haine à l'égard de quelqu'un, le harcèlement. Mais effectivement, ça peut être homicidaire. Enfin, ça peut être homicide. Ça peut aboutir effectivement à une... Ça c'est une dimension diable. Le harcèlement... avec tout ce qu'il peut avoir, le côté message anonyme, enfin, mais c'est les anciens, un peu le côté maître-chanteur, tout ça. Mais je crois plus à la curiosité, ça reste quand même la victime est subit le harcèlement, mais le plaisir du diable, c'est la curiosité.
Mais je pense que, j'ai eu le temps de réfléchir du coup un peu, mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Dans l'esprit d'offense, il y a effectivement... potentiellement quelque chose qu'on peut associer au diable, qui est cette idée de nombrilisme extrême. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'égomanie est une expression luciférienne. Et donc cette idée qu'on est absolument au centre du monde et que tout tourne autour de son propre nombril et que tout mérite aussi d'être partagé et d'être exprimé. Là, il y a quelque chose, effectivement... Je pense qu'il est assez éternel dans la figure du diable.
Søren Kierkegaard définit le diable comme l'hermétisme, le fait d'être renfermé sur soi et ne plus avoir de rapport avec les autres ni avec l'infini.
Oui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la séparation, l'idée. Ah ouais. Mais c'est en fait le terme même de séparation est étymologiquement lié à Satan et au diable. Hein, celui qui divise, et Satan, c'est vraiment c'est l'écart étymologiquement. Donc cette idée d'enfermement, elle est potentiellement liée à l'écart. Oui.
Nicolas Chemla, vous participez à un autre recueil de nouvelles, hein, avec Esther Teillard encore, qui s'appelle « Dernière nouvelle d'Eros », qui paraît chez Grasset. Grasset qui n'est plus en odeur de sainteté, non, depuis qu'Olivier Nora s'est fait congédier par Vincent Bolloré.
C'est bien ma veine.
Qui s'affirme haut et fort catholique fervent et pratiquant. Le diable peut-il prendre les apparences d'un dévot ?
Ah bah, il prend surtout, et d'abord et avant tout, les apparences d'un dévot, parce que il s'agit bien évidemment de séduire. Alors, si vous voulez séduire un croyant, c'est la tartufferie qui prévaut bien évidemment, ça c'est clair. Mais effectivement, non, je suis impatient de lire ce recueil de nouvelles où effectivement il y a mes chers Esther Teillard et Nicolas Chemla, ça va sortir au mois de mai. Et là on voit, de même que... D'ailleurs, c'est une coproduction Séguier-Grasset. Mais de même que l'on voit, aujourd'hui, on pose la question du « quel diable pour la littérature actuelle ?» C'est aussi intéressant de reposer la question « quel désir et quel éros pour l'écriture d'aujourd'hui ?» Ou la question de l'éros à mon seul désir est remis en cause. Ça c'est très étrange. Très, très impatient de lire.
L'abbé Donissant se souvient qu'il n'a pas d'amis. On est toujours seul face au diable ?
Ah ben oui. Oui, justement, c'est même le seul moment où on est vraiment seul. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de sensation de verticalité et d'absolue singularité. On est dépourvu, à gros. On est absolument dépourvu et absolument tenu de faire face. Oui, oui, absolument. Je crois qu'il y a... C'est une bonne définition aussi du diable. C'est l'homme qui vous isole. On revient à ce que disait Nicolas Chemla. C'est l'homme qui vous isole absolument.
Et pourtant, on ne peut pas se sauver soi-même. Même le Christ n'a pas pu se sauver lui-même, seul.
Ah non, non.
À l'inhumain, quel surhumain peut nous sauvegarder ?
Ah mais le surhumain ne peut rien pour personne. Le surhumain est une sorte de, là aussi, d'une duperie satanique. Je crois que c'est l'humain. C'est plus l'humanité sera humaine, plus elle sera en capacité de se sauver. Je crois que l'infra-humain et le surhumain sont des mirages sataniques.
Si on revient sur l'inexistence du mal, en tout cas son absence de substance, pour dire en termes philosophiques, ontologiquement, il n'y a pas de mal, est-ce qu'on n'est pas toujours à soi-même son meilleur démon ? Nicolas Chemla ?
Ouh là là, mais vous me faites une interrogation. à nouveau, je pense que quand on se retourne vers soi, uniquement vers soi, c'est là qu'on a le plus de chances de se faire happer par le diable. Mais pour revenir à l'idée de la salvation, moi je pense que c'est intéressant le rapprochement entre Dernière Nouvelle d'Eros et Un jour le diable, parce que de fait, je pense que... Enfin, moi, j'ai toujours été convaincu que, alors, d'une part, désir et diable vont quand même assez, j'ai envie de dire, quasi ontologiquement de pair, mais surtout qu'ils sont tous les deux les deux lieux et les deux moteurs, les deux énergies de la littérature véritable. Et donc, je suis, enfin, dans Lucifer, je suis loin d'être le seul à penser ça, hein, mais cette idée que sans doute la littérature est une forme d'émanation satanique, dans la mesure où le verbe est divin, le verbe est sacré, et que donc s'octroyer comme ça le droit et le loisir de jouer avec une matière aussi magique dans le véritable sens du terme, est potentiellement une expression du projet luciférien. Mais en même temps, je pense que c'est là qu'il faut... Il faut faire preuve un peu d'orgueil, et même si c'est très luciférien, et se dire qu'on peut peut-être le tromper et faire de la littérature une forme de salvation. C'est-à-dire que dans cette solitude extrême et dans cet enfer sur Terre dans lequel on baigne et on a la certitude de baigner pour peu qu'on ouvre un peu les yeux, on peut essayer de jouer le jeu et de faire entreapercevoir dans un texte des possibilités de salvation, de rencontre, de merveille, qui du coup, enfin, à la fois nous approche du diable et en même temps de Dieu. Et je pense que c'est quelque chose d'assez... je pense que c'est très, très, très fondamental
et
dans la littérature.
L'autre ne peut pas être une clé pour nous, l'autre ne peut pas être un paradis Est-ce qu'on ne peut pas être soi-même une clé pour l'autre ou un paradis pour l'autre?
C'est une question de, point de vue, en fait. L'autre peut être un masque.
Oui, oui, effectivement, oui, c'est le prochain, le vis-à-vis peut être effectivement une possibilité de salvation, mais là encore, affaire de rencontre. On peut rencontrer des anges et rencontrer des diables. Tout est affaire de providence. Qu'est-ce qu'on vous donnera un jour à croiser, quoi. Oui, l'autre, parce que pour le curé, le maquignon, c'est l'autre. C'est un autre qu'il croit d'abord bénéfique et qu'il découvre maléfique, effectivement. L'autre, c'est impossible. Alors à partir de là... débrouillez-vous.
Merci beaucoup François Angelier, merci Nicolas Chemin d'être venu parler de Un jour le diable, paru aux éditions Séguier. Merci à René Clancy qui a assuré la régie. Si vous voulez soutenir l'indépendance d'Aligre FM en ces temps troublés où la liberté des médias et de l'édition ne va plus tout à fait de soi, vous pouvez faire un don sur Aligre FM, vous allez sur le site, on a besoin de votre soutien, vous allez sur la rubrique appel aux dons, c'est évidemment déductible d'impôts. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine avec Mirwais, on reste dans le thème, avec son roman Nihilium, apparaître chez Séguier également. Yves, évidemment, cette mission, elle est pour toi. À très bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.